Cela se passait dans la décapole. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Ce n'était pas leur maladie, comme certains l'enseignent aujourd'hui, mais leur guérison, qui poussait ces grandes foules à glorifier le Dieu d'Israël. Quelle grande gloire reviendrait à Dieu et quelle bénédiction recevrait le monde si chaque prédicateur annonçait clairement les promesses bibliques concernant la guérison des malades. Chaque fois qu'un malade serait guéri, il publierait à son tour la compassion du Seigneur dans toute sa décapole. En peu de temps, des milliers et des milliers de malades obtiendraient leur guérison par la foi en Jésus-Christ. Il serait encore dit que les multitudes glorifiant le Dieu d'Israël. Page 65. Adeptes de la haute critique théologique, et les modernistes deviendraient vite impopulaires, et les sectes qui pratiquent de fausses méthodes de guérison ne détourneraient plus de l'Église ces multitudes qui sont actuellement prises dans leur filet. Ce n'est pas un crime de publier la bonté du Seigneur. Il est dit dans l'Évangile que le démoniaque de Gadara est allé publier la compassion du Seigneur. Certains s'opposent à nous et écrivent des articles contre nous, parce que nous publions les témoignages de ceux qui ont été miraculeusement guéris. Quel est le problème? Quel mal faisons-nous en obéissant au commandement du Seigneur, qui demande de faire connaître ses œuvres parmi le peuple? Puisque Jésus est mort pour nous ouvrir la voie de ses bienfaits et pour répondre à tous les besoins des hommes, nous devrions certainement accepter de les leur annoncer. En lisant certains des articles et des livres qui ont été écrits, on pourrait penser que c'est un crime d'annoncer à tout le monde que le Seigneur est plein de compassion. Remarquez, dans le passage cité ci-dessus, que l'on venait à lui de toutes parts, à mesure que sa réputation se répandait au loin, à cause des miracles et des guérisons qu'il accomplissait. Les foules le suivaient à pied hors des villes, et de grandes multitudes venaient à lui. Des multitudes, des multitudes, des multitudes partout. Il en est de même aujourd'hui. Dès qu'il est connu, dans une ville, que ce même Jésus guérit toujours les malades, dès que l'on obéit à son ordre de faire connaître ses œuvres parmi le peuple, et dès que sa compassion est publiée, les foules viennent de toutes parts. Je n'ai jamais rien vu de plus puissant pour briser tous les obstacles et pour attirer les foules que la manifestation de la compassion du Seigneur dans la guérison des malades. Dans nos campagnes de réveil, nous avons constaté, dès que le Seigneur manifeste sa compassion en guérissant les malades, que les foules viennent de toutes parts, de toutes les églises, méthodistes, baptistes, catholiques, adeptes de la science chrétienne, spirites, juifs, riches et pauvres, de toutes parts. Des multitudes entendent l'Évangile et donnent leur vie à Dieu. Elles ne seraient jamais venues assez. Page 66. Réunion s'il ne s'était pas produit des miracles et de guérisons pour révéler la compassion du Seigneur? Les effets des guérisons qui se passent aujourd'hui si Christ et ses apôtres ne pouvaient pas attirer des multitudes sans accomplir des miracles, se peut-il qu'ils nous le demandent? Au lieu de dire que le ministère de guérison empêche les gens de s'intéresser aux problèmes plus importants du salut de l'âme, nous avons vu plus de merveilleuses conversions en une seule semaine que dans toute une année d'efforts d'évangélisation, au cours des 13 années où je ne prêchais pas cet aspect de l'Évangile d'une manière hardie et publique. Dès que commencent nos campagnes de réveil, des centaines de personnes accourent devant l'estrade chaque soir pour donner leur cœur et leur vie au Seigneur et des villes entières commencent à parler de Jésus. D'autres évangélistes qui ont assisté à nos réunions vérifient à présent que cela est également vrai dans leurs propres réunions. Dans le dernier de nos réveils, à Ottawa, au Canada, juste avant la rédaction de ce livre, au cours des 6 semaines de réunion, 6 000 personnes sont venues demander la guérison, et près de 12 000 ont accepté le salut. Je me demande s'il y aurait eu plus de 1 000 personnes converties si aucune guérison n'avait démontré la compassion du Seigneur. La ville et la région d'Ottawa ont été secouées comme jamais auparavant au cours de leur histoire, et l'on a observé dans cette capitale du Canada les plus grandes foules jamais rassemblées pour des réunions religieuses. Elles remplissaient le nouvel auditorium, le plus grand bâtiment de cette ville. L'auditoire est monté à 10 000 personnes pour une seule réunion. Avant même que nous quittions la cité, des centaines de témoignages écrits nous sont parvenus, envoyés par tous ceux qui avaient été guéris ou qui étaient en train d'être guéris de presque toutes les maladies et les infirmités possibles. À Dieu en revienne toute la gloire. Page 67. Les guérisons sont un puissant moyen d'évangélisation. Un évangéliste baptiste, parmi bien d'autres évangélistes qui constatent à présent cette vérité, a écrit, dans l'un des dix traités qu'il a publié sur ce sujet, que la guérison était le plus puissant moyen d'évangélisation jamais utilisé par le Seigneur et qu'il ne retournerait pas à ses anciennes pratiques pour tout l'or de l'Amérique. Lisons à présent un autre passage qui nous parle de la compassion du Seigneur. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples : la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité, après leur avoir donné les instructions suivantes : allez, prêchez, guérissez les malades. Matthieu 9, 35 à 10, 8. Nous voyons ici que sa compassion pour les malades commençait à être si bien connue que la moisson était devenue trop grande pour un seul moissonneur. Son cœur compatissant souffrait de voir des foules de plus en plus grandes qui ne pouvaient pas l'atteindre parce qu'il était pressé de trop près. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. C'était comme s'il ne pouvait lui-même s'occuper que d'une partie de cette foule et que sa compassion pour les multitudes, qui grandissaient rapidement, le poussait à envoyer d'autres ouvriers pour prêcher et pour guérir. De tels ouvriers sont peu nombreux aujourd'hui, alors que la moisson est vraiment plus abondante que jamais. Ce qu'il a commencer de faire et d'enseigner est exactement ce qu'il veut que l'on fasse et que l'on enseigne aujourd'hui. Au lieu de finir une œuvre, comme le disent les modernistes, il était en train de commencer quelque chose qu'il avait promis de poursuivre et de développer. Non pas l'Évangile. Page 68. Frelaté du XXe siècle, mais l'Évangile qu'il a proclamé et dont il a dit qu'il serait prêché dans le monde entier. Une étrange modification de la promesse de Jésus dans Jean 14, 12-13, Jésus a promis, avec insistance, que la même miséricorde et la même compassion pourraient toucher les foules par nos prières, alors qu'il est à présent notre souverain sacrificateur dans le ciel. En réalité, il partit pour permettre à sa compassion de se manifester sur une plus grande échelle. Esaïe a prophétisé sur lui, il se lèvera ou il sera élevé, pour vous faire miséricorde, Esaïe 30, 18. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille? Ceci ne serait pas vrai si son départ avait diminué et, ou même modifié, sa compassion qui le poussait à guérir les malades. N'est-il pas étrange que beaucoup de prédicateurs renversent aujourd'hui cette promesse de Jésus qui avait dit que ceux qui croient en lui feraient les mêmes œuvres que lui, et même de plus grandes encore, en enseignant que le temps des miracles est passé? D'autres aboutissent au même résultat en enseignant que Dieu veut que certains de ses enfants fidèles restent malades pour sa gloire, ou bien d'autres doctrines traditionnelles et antibibliques. Tout homme qui enseigne que la guérison n'est pas pour tous ceux qui en ont besoin aujourd'hui, comme dans le passé, enseignant fait que la compassion de Jésus-Christ envers les malades n'est plus la même depuis qu'il est monté au ciel. Pis encore, d'autres enseignent qu'il n'exerce plus aucune compassion dans le domaine de la guérison des malades. Pour moi, c'est un mystère de voir qu'un prédicateur puisse prendre une telle position qui voilée empêche la manifestation du plus grand attribut de Dieu, sa compassion, qui n'est autre que l'amour en action. Lorsque Paul lance son appel le plus ardent à la consécration, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Romains 12, 1. Il savait que ses compassions étaient la manifestation du plus grand attribut de Dieu. Deux questions importantes, Jésus a dit « Quand ? L'Esprit de vérité sera venu. » Il me glorifiera, Jean 16, 13-14. Est-ce que le Saint-Esprit pourrait glorifier Christ auprès des malades en leur disant que le temps des miracles est passé ou que Jésus, depuis son ascension, a terminé ou modifié? Page 69. Son ministère de guérison, alors qu'il nous a lui-même promis que nous ferions ses œuvres, et même de plus grandes, pendant notre dispensation actuelle. Point d'interrogation. Le Saint-Esprit est-il venu pour glorifier Christ en modifiant son ministère auprès de ses enfants malades et souffrants alors que Jésus est leur souverain sacrificateur? Ce serait totalement contraire à ce qu'il faisait en guérissant les foules de la Décapole, qui glorifiaient pour cela le Dieu d'Israël. Si c'était le cas, alors nous aurions raison de prier comme cela se fait souvent, en demandant que les malades aient la force et la patience de supporter leurs afflictions. C'est après être devenu notre souverain sacrificateur que le Seigneur Jésus s'adresse par cette fois aux églises, en disant « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ». Les hommes disent aujourd'hui beaucoup de choses que le Saint-Esprit n'a jamais dites et qui sont même opposées à ce qu'il dit. Voici ce que le Saint-Esprit dit entre autres choses pour glorifier Jésus-Christ. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux, compatissant et fidèle. Hébreux 2, 17. Nous avons déjà dit que les mots « miséricordieux » et « compatissant » sont deux traductions du même mot grec, « eliomon », traduit ici par « miséricordieux ». Ce verset ne fait pas référence à la compassion de Christ alors qu'il était sur la terre. Il fait uniquement référence à son ministère actuel dans le ciel et au fait que son incarnation avait pour but de lui permettre de nous manifester sa compassion lorsqu'il serait notre souverain sacrificateur après être retourné au ciel. Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel est exactement ce qu'il a promis de continuer et de développer après son départ, parce que sa compassion n'a pas changé. Le Saint-Esprit glorifie aussi Christ en disant que « nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir maintenant ». À nos faiblesses, Hébreux 4, 15, qu'il « peut sauver ou guérir parfaitement ceux qui s'approchent maintenant ». De Dieu par lui, Hébreux 7, 25. Et qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et... Page 70. Éternellement, Hébreux 13, 8. Adorons-le, parce que sa compassion est la même aujourd'hui, parce qu'il est toujours ému de compassion, et qu'il désire toujours ardemment nous secourir, lorsqu'il voit toutes nos infirmités. Bien entendu, nous reconnaissons que, grâce à Dieu, beaucoup de ceux qui ne croient pas à la guérison divine coopèrent effectivement avec le Saint-Esprit en ce qui concerne la tâche bien plus importante d'amener des âmes au salut. Mais ce serait merveilleux si tous les prédicateurs et les chrétiens, au lieu de dire que le temps des miracles est passé, acceptaient de coopérer avec le Saint-Esprit en proclamant également aux malades la compassion de Christ, ce qui permettrait au Saint-Esprit de glorifier le Seigneur Jésus. Au lieu d'être comme ce sacrificateur et ce lévite qui sont passés, sans s'intéresser aux blessés, l'Église, dans Jacques 5, a reçu l'ordre d'être un « bon samaritain » et de répondre avec compassion aux besoins physiques des malades et de ceux qui souffrent, en bandant leurs plaies, et en versant sur elles le baume de l'huile et du vin, la parole et l'Esprit de Dieu. Car il envoya sa parole et il les guérit, par la puissance de l'Esprit. Jésus a annoncé le malheur aux scribes et aux pharisiens pour avoir négligé ce qui était le plus important, c'est-à-dire la miséricorde et la fidélité ou la foi. Au chapitre 5 des Actes, nous trouvons une autre preuve merveilleuse que la compassion du Seigneur Jésus envers les malades est toujours la même aujourd'hui. Car nous lisons, en ce qui concerne les foules de malades qui étaient amenées dans les rues de Jérusalem, après l'ascension de Jésus auprès du Père, que tous étaient guéris. C'est en tant que notre souverain sacrificateur dans les cieux que Jésus agissait, exactement comme il le faisait lorsqu'il était sur la terre. Étant dans le ciel, il est toujours ému de compassion pour guérir tous ceux qui ont besoin d'être guéris. Même au dernier chapitre des Actes, nous le voyons manifester sa compassion depuis le ciel en guérissant tous les malades qui étaient sur l'île de Malte. Étant notre souverain sacrificateur, sa compassion est si grande qu'il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Page 71. Depuis que Jésus a été glorifié, nous voyons encore que sa compassion pour les malades l'a poussé à donner à l'Église des dons de foi, de miracles et de guérison, pour que les malades soient guéris, car il est notre souverain sacrificateur pour les siècles des siècles. Les dons de guérison ont à présent autant d'importance que dans le ministère terrestre de notre Seigneur? Même ceux qui n'ont pas un ministère d'anciens peuvent prier pour les malades. C'est la compassion actuelle de Jésus qui l'a motivé, en tant que souverain sacrificateur et chef de l'Église, à commander aux anciens, et même à ceux qui n'ont pas un ministère d'anciens, de prier la prière de la foi pour guérir tout malade chaque 5. Tous ceux qui ont pour tâche de transmettre la parole de vie devraient constamment présenter cette directive au peuple de Dieu, aussi longtemps que ce dernier est lui-même confronté à la maladie. Même pendant son ministère terrestre, Notre merveilleux Seigneur n'a pas hésité à accepter tous les sacrifices et même à supporter la malédiction pour que sa compassion puisse atteindre les plus indignes et les plus insolents de ses ennemis. Les grumeaux de sang de Gethsémané et les horribles tortures du calvaire n'étaient que les manifestations de son infinie compassion. Il est allé au calvaire en rendant son visage semblable à un caillou, Esaïe 50, 7. Même après avoir été trahi par le baiser de Judas qui le livrait à ses bourreaux, et après que Pierre eut coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, Jésus guérit l'oreille de son ennemi et dit à Pierre de remettre son épée dans son fourreau. Lui-même a remis, pour ainsi dire, sa propre épée dans son fourreau en refusant de céder à une impulsion toute naturelle de son âme sainte et en refusant de prier son Père. Car, s'il avait prié, il aurait pu être secouru aussitôt par 12 légions d'anges et échapper ainsi à l'agonie de la croix. Mais il n'y aurait eu alors pour nous, créatures déchues, avec tous les besoins de notre esprit, de notre âme et de notre corps, qu'un trône de jugement et non un trône de miséricorde. Par son œuvre accomplie à la croix, il a ouvert la route à sa miséricorde pour qu'elle puisse répondre à tous nos besoins. Il était, et il est toujours, ému de compassion pour tous ceux qui ont besoin de celui qui est présent, qui pourvoit, qui donne la paix, là. Page 72. Victoire, qui est notre berger, notre justice et notre médecin. Ce sont là les 7 bénédictions qu'il nous a accordées en acceptant de passer par la tragédie de la croix et qui nous sont révélées par ces 7 noms rédempteurs. Son alliance de guérison, comme toutes les autres alliances, nous est accordée en vertu de sa compassion et il est celui qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime. Deutéronome 7, 9. Comment ne pas faire souffrir le cœur de Jésus? Le cœur de Jésus souffre lorsqu'on ignore ou qu'on doute de son amour et de sa compassion. C'est cela qui l'a fait pleurer sur Jérusalem. Les prédicateurs ont si souvent proclamé aujourd'hui que nous n'avons plus besoin de miracles, que les miracles ne sont que des moyens de prouver la divinité du Seigneur Jésus, etc. Il m'est arrivé de leur dire, si vous aviez un cancer qui vous rongeait le visage, vous auriez besoin d'un miracle, n'est-ce pas? La plupart des gens aujourd'hui sont tellement peu éclairés sur ce sujet qu'il ne leur vient jamais à l'esprit que la miséricorde existe aussi pour les malades. Ils ne pensent jamais que les dons des guérisons et des miracles sont des manifestations de la compassion de Christ, ni qu'il a passé son temps, jour après jour, pendant 3 ans, à guérir tous ceux qui venaient à lui, à cause de sa compassion. Est-ce que les besoins de ceux qui souffrent ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'au temps de Jésus? N'ont-ils pas tout autant besoin de compassion qu'autrefois? Nous pensons aux maladies nombrables, qui sont désespérées, qui subissent une agonie tellement intense, que la mort serait pour eux une délivrance, et auxquelles les médecins, après avoir fait tout ce qu'ils pouvaient, sont obligés de dire « je ne peux plus rien faire pour vous ». Comme il est précieux de savoir que la compassion de Christ, à chaque instant, est toujours exactement la même que pendant les 3 années de son ministère d'amour sur cette terre. C'est une vérité sur laquelle nous pouvons totalement nous appuyer. Nous avons démontré que la guérison du corps est un acte de miséricorde que Christ, qui a manifesté la volonté du Père, est prêt, page 73, à accorder partout à tous ceux qui la recherchent. Nous connaissons cette claire déclaration que le Seigneur est plein de compassion pour tous ceux qui l'invoquent, y compris les malades, parce que sa miséricorde dure à toujours, éternellement, et que ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ces passages de l'Écriture ne règlent-ils pas la question? Au lieu de dire que le temps des miracles est passé, dites « il est écrit ». Il est écrit. Page 74. Chapitre 5. Comment saisir la guérison? Note ce message, répète certains des arguments présentés dans les chapitres précédents. Ceci est volontaire, pour que ce chapitre puisse présenter à lui seul suffisamment de matière pour créer la foi? Nous faisons ceci en pensant à tous ceux qui pourraient avoir besoin de la prière de la foi, sans avoir le temps de lire le livre tout entier. Première étape. La première étape pour être guéri est la même que la première étape pour être sauvé, ou pour obtenir n'importe quelle autre bénédiction promise par Dieu. Le malade doit savoir ce que la Bible enseigne clairement, c'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu de le guérir jusqu'à ce qu'il ait achevé de vivre le nombre d'années qui lui était imparti. Chaque malade doit lui-même être convaincu, par la parole de Dieu, que sa guérison est la volonté de Dieu. Car il nous est impossible d'avoir une foi véritable pour la guérison, aussi longtemps que nous avons le moindre doute quant à la volonté de Dieu. Il est impossible de revendiquer hardiment par la foi une bénédiction si nous ne sommes pas certains que Dieu veut la donner, car la puissance de Dieu ne peut être invoquée que lorsque la volonté de Dieu est connue. Par exemple, il est presque impossible d'amener un pécheur à croire au salut tant que vous ne l'avez pas pleinement convaincu que c'est la volonté de Dieu de le sauver. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. La foi ne doit s'appuyer que sur les volontés de Dieu et pas sur nos souhaits ou nos désirs. Une foi vivante ne se contente pas de croire que Dieu peut, mais qu'il veut. Ceux qui prétendent croire à la guérison, mais qui disent une parole en sa faveur et 10 paroles contre, ne peuvent pas créer la foi pour la guérison. Page 75. La foi, c'est s'attendre à ce que Dieu agisse. Quand Dieu nous commande de prier pour les malades, il s'attend à ce que notre prière soit faite avec foi. Nous ne pouvons pas le faire si nous ne connaissons pas sa volonté en la matière. Quand nous savons que c'est sa volonté, il ne nous est pas difficile de croire qu'il va faire ce que nous sommes sûrs qu'il veut faire. C'est ainsi que toute personne sauvée a reçu le miracle encore plus grand de la nouvelle naissance. Nous ne pouvons rien saisir par la foi tant que nous ne connaissons pas, par l'Évangile, ce que Dieu nous a donné. Aucune doctrine n'est plus clairement enseignée dans toute la parole de Dieu que celle qui affirme que l'expiation de Christ nous a acquis à la fois le salut et la guérison du corps, et que c'est la volonté de Dieu d'ôter les maladies de ses enfants et de remplir le nombre de leurs jours selon sa promesse Exode 23, 25-26. Point. Les exemples qui nous sont présentés dans Lévitique 14 et 15 nous montrent que c'était toujours par une expiation que la maladie était guérie sous la loi de Moïse. C'est pour cela que Matthieu 8, 17 déclare de manière formelle que Jésus a guéri tous les malades en vertu de son expiation. Ce passage nous montre que si Jésus ne faisait aucune exception quand il guérissait les malades qui le pressaient, c'était à cause de l'expiation qu'il allait accomplir pour toute la race humaine, y compris pour vous. Lorsque de vastes multitudes se pressaient autour de lui pour l'écouter et pour être guéris de leur maladie, il est constamment dit, dans tous les évangiles, qu'il les guérissait tous. Lisez Matthieu 4, 24, 12, 15, 14, 14, Luc 4, 40, Actes 10, 38. Il n'était pas possible qu'il fasse des exceptions. Pourquoi? Parce qu'il allait prendre sur lui, par l'expiation qu'il allait accomplir, nos maladies et nos douleurs. Puisqu'il a porté nos maladies et nos infirmités, il est nécessaire que tous soient guéris pour que s'accomplisse pleinement cette prophétie. Dieu a pris soin d'utiliser un langage clair, et il faudrait que nous en tordions le sens pour nous exclure nous-mêmes de cette bénédiction. Page 76. Ce que le calvaire offrait pour tous. Le moyen que Dieu utilise pour sauver une âme, pour guérir un corps, ou pour faire tout ce qu'il veut faire, est d'envoyer sa parole, sa promesse, puis d'accomplir sa promesse chaque fois qu'elle produit la foi. La procédure divine de guérison est exposée dans ce verset, il envoya sa parole, et il les guérit, il les fit échapper à la fosse, psaume 107, 20. C'est la parole de Dieu qui agit en ceux qui croient et qui est santé pour tout leur corps, voir 1 Thessaloniciens 2, 13 et Proverbe 4, 22. Tout comme une petite fille, à la fois qu'elle aura une nouvelle robe en entendant sa mère lui promettre qu'elle lui en achètera une le samedi suivant, ainsi, notre foi en la guérison vient lorsque nous entendons la parole de Dieu qui nous promet de nous guérir. La foi de cette petite fille, comme la nôtre, vient de ce qu'elle a entendu la promesse. On ne pourrait pas demander à cette petite fille d'avoir la foi pour une nouvelle robe tant que sa mère ne lui a pas fait la promesse. Ainsi, nous ne pouvons pas avoir la foi pour la guérison ou le salut ou pour n'importe quelle autre bénédiction tant que nous n'avons pas entendu la parole et la promesse de Dieu. Comment quiconque peut être justifié par la foi si personne ne lui prêche la parole, et comment quiconque peut être guéri si personne ne lui prêche? Ce sont les Écritures qui peuvent rendre les hommes sages à salut. Nous devons comprendre que le Créateur et le Rédempteur de notre corps est aussi son médecin, avant d'avoir des raisons de nous attendre à une guérison. Quand Christ nous commande de prêcher l'Évangile à toute créature, il veut dire par là que nous devons annoncer la bonne nouvelle de la rédemption. Nous avons déjà vu que ces sept noms rédempteurs nous révèlent ce que notre rédemption comprend. Il a bien d'autres noms, mais seulement sept noms rédempteurs. Ces sept noms ne sont utilisés dans les Écritures que pour caractériser les rapports entre Dieu et les hommes. Sept noms, parce que sept est le chiffre de la perfection. Notre Seigneur est un parfait sauveur, et sa rédemption répond à tous nos besoins. Page 77. Toutes les bénédictions révélées par ces sept noms sont comprises dans la rédemption. Ces sept noms appartiennent tous sans conteste à Christ, et c'est sous chacun de ces sept noms qu'il est, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le serpent d'airain est une préfiguration de Christ. Dieu avait promis aux Israélites qui étaient en train de mourir de la morsure des serpents que tous ceux qui étaient mordus seraient guéris s'ils regardaient le serpent d'airain, représente le sacrifice du calvaire. Si la guérison du corps n'était pas comprise dans l'expiation faite par Jésus, pourquoi Dieu aurait-il demandé à ces Israélites mourants de regarder à une préfiguration de l'expiation pour obtenir leur guérison physique? Leur malédiction a été ôtée lorsque cette préfiguration de Christ a été élevée le serpent d'airain sur la perche. De même, notre malédiction est ôtée depuis que Christ a été élevé sur la croix. Puisque le Saint-Esprit nous a été donné pour faire vivre Christ en nous, pourquoi ne regarderions-nous pas à Christ lui-même avec la même foi qui animait les Israélites lorsqu'ils regardaient le serpent d'airain? Remarquez bien qu'ils ne pouvaient pas regarder en même temps leurs symptômes et le serpent d'airain. Abraham s'est fortifié dans la foi en gardant les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Certaines personnes font l'inverse et leur foi diminue parce qu'elles regardent leurs symptômes et oublient la promesse. Puisque Dieu les a guéris en leur envoyant sa parole, seul fondement de notre foi, nous passerons à côté de la guérison si nous permettons à nos symptômes de nous empêcher d'attendre ce que sa parole nous promet. La seconde étape, consiste à bien vous assurer que vous êtes en règle avec Dieu, car les bénédictions qui nous sont acquises par la rédemption sont conditionnelles. Après avoir entendu l'Évangile et tout ce qu'il offre, nous devons aussi considérer cette parole de Jésus, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Seuls ceux qui sont en règle avec Dieu peuvent suivre ses instructions. Quand nous recherchons la guérison de notre corps, nous ne devons faire... Page 78. Aucun compromis avec l'adversaire de nos âmes, parce que c'est lui qui est l'auteur de nos maladies. Jésus peut détruire les œuvres du diable dans notre corps même si nous pratiquons encore ses œuvres dans notre âme, mais il n'a pas promis de le faire. Il est difficile d'exercer la foi pour détruire une œuvre de Satan dans notre corps si nous permettons à une œuvre bien pire de se faire dans notre âme. Si nous ne réglons pas définitivement le problème de notre obéissance au Seigneur, nous ne sommes pas sur le terrain de la foi. Jacques dit, « Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. » C'est la volonté de Dieu que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, 18. C'est lorsque nos cœurs ne nous condamnent pas que nous avons de l'assurance devant Dieu. L'ordre donné aux malades de faire appeler les anciens de l'Église s'adressait à des chrétiens qui avaient été remplis de l'Esprit. Il y a quelque chose d'anormal quand on désire avoir la bénédiction, mais pas celui qui bénit, quand on veut sa miséricorde mais pas lui-même. Il n'est pas juste de rechercher sa miséricorde tout en rejetant sa volonté. Ne demandez pas une petite bénédiction tout en rejetant une plus grande. Il est impossible de recevoir et de rejeter en même temps les bénédictions divines. Dieu attend de pouvoir dire à la maladie et à Satan ce qu'il a dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve », Exode 7, 16. Notre premier souci, en toute chose, et même quand nous demandons la santé pour notre corps, devrait être la gloire de Dieu. Notre seule motivation, lorsque nous recherchons la guérison auprès du Seigneur, doit être d'obtenir la force nécessaire pour le servir. L'onction d'huile accompagnant la prière pour la guérison est elle-même un symbole et un signe de consécration. Nous devons désirer notre santé pour la gloire de Dieu. Page 79. Rubin A. Thoré a écrit, « Que signifie donc l'onction d'huile ? Regardez à Lévitique 8, 10-12, et vous y verrez la réponse de Dieu. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et les sanctifia. Cela signifie qu'il les mit à part pour Dieu. L'onction d'huile au nom du Seigneur était un acte de consécration et de dédicace. Cela impliquait de la part de celui qui recevait l'onction une entière consécration à Dieu. Il devait lui consacrer ses mains pour travailler pour Dieu et lui seul, ses pieds pour marcher pour Dieu et lui seul, ses yeux pour voir, ses lèvres pour parler, ses oreilles pour entendre, pour Dieu et lui seul. Tout son corps était destiné à être le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2. Le Saint-Esprit nous demande de nous soumettre à Dieu avant de résister au diable, parce que personne ne peut résister au diable avec succès s'il ne s'est pas d'abord soumis à Dieu. Quand on résiste ainsi au diable, il ne se contentera pas de nous quitter tranquillement, il s'enfuira littéralement loin de vous. Jacques 4, 7. La malédiction, qui comprenait les différentes maladies énumérées dans Deutéronome 28, est venue sur le peuple, parce qu'ils n'ont pas obéi et servi Dieu, avec joie et de bon cœur, Deutéronome 28, 47. C'était la condition de leur cœur, qui avait fait venir sur eux les maladies mentionnées dans ce chapitre. Il ne faut pas garder notre cœur dans cette condition, si nous voulons que ces maladies partent. En d'autres termes, si la condition de leur cœur était responsable de la malédiction, à cette époque, il ne faut pas que nos cœurs soient aujourd'hui dans la même condition, si nous voulons que le Seigneur enlève la malédiction. Les promesses de Dieu sont, pour ceux qui lui obéissent, le Seigneur n'accorde les désirs de leur cœur qu'à ceux qui font de lui leur délice. Psaume 37, 4. Dieu n'a pas diminué ses exigences en notre temps de la grâce. Ce n'est qu'à ceux qui lui obéissent, à ceux qui écoutent attentivement la voix de l'Éternel, et qui font ce qui est droit à ses yeux, que le Seigneur promet de... Page 80. N'envoyez aucune de ces mauvaises maladies. Voir Deutéronome 7, 15 et Exode 15, 26. La foi vient quand notre cœur et notre volonté sont unis au cœur et à la volonté de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas cette unité, l'exaucement est impossible. C'est une loi spirituelle très importante que nous négligeons pour notre malheur. Le Seigneur dit « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal ». Ce sera la santé en hébreu, une médecine pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Proverbe 3, 7-8. La foi implique toujours l'obéissance. Paul écrit aux Éphésiens d'obéir au premier commandement auquel est associée une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, Éphésiens 6, 3. Il a fallu que Naaman cède et obéisse complètement à la parole de Dieu avant d'être guéri. C'est à ceux qui marchent dans l'intégrité que Dieu ne refuse aucun bien, Psaume 84, 11. Par conséquent, avant de demander quoi que ce soit au Seigneur, vous devez accepter de vous soumettre au premier et au plus grand de tous les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Car Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, Psaume 91, 14. Dieu garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements, Deutéronome 7, 9. Par conséquent, comme le lépreux, venons à lui pour l'adorer, lorsque nous lui demandons de nous guérir. Dans sa droite la sagesse est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire, Proverbe 3, 16. Épouse la sagesse et tu jouiras de ses richesses. La sagesse est ici représentée par une très belle reine, qui est en ses mains chargée de bénédictions vers ceux qui acceptent de se soumettre à son autorité. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui, 2 Chroniques 16, 9. Un cœur calme ou sain est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os, Proverbe 14, 30. Un cœur agité ou malsain est pire. Page 81. Qu'un estomac malsain, une âme malade est pire qu'un corps malade. Une volonté déréglée est pire qu'un foie déréglé. Paul dit, le corps est pour le Seigneur, avant d'ajouter, le Seigneur est pour le corps. La Bible enseigne que notre corps a été racheté à grand prix. C'est pourquoi nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit, qui appartiennent à Dieu, 1 Corinthiens 6, 20. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, Romains 12, 1. Présentez-lui donc votre corps, si vous voulez être guéri. Il n'a promis de le guérir que s'il devient sa propriété. Il faut d'abord venir à la croix, pour être purifié. Voici le chemin le plus sûr, pour le malade d'abord à la croix pour être purifié, ensuite à la chambre haute pour recevoir le don du Saint-Esprit, puis sur la montagne pour y recevoir sa mission, et, enfin, au pied du grand médecin, pour recevoir la force de le servir. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous, Romains 8, 11. En Christ, le vrai cep, nous trouvons toute la vie dont nous avons besoin pour notre âme et notre corps. Mais nous ne pouvons posséder et jouir de cette vie que par notre union avec le cep. C'est en lui et non pas en dehors de lui que nous avons, tout pleinement, Colossiens 2:10. La substitution sans l'union ne suffit pas pour que nous possédions et jouissions de la vie du cep. Si vous avez besoin d'un miracle, accordez-vous avec celui qui accomplit les miracles. Nous jouissons de la vie du cep en étant parfaitement unis au cep. Si nous demandons la guérison, tout en refusant d'être conduits par le Saint-Esprit, cela revient à demander à un charpentier de réparer notre maison, tout en lui refusant d'entrer dans la maison. Page 82. Et ceux qui le touchèrent furent guéris, Matthieu 14, 36. Vous ne pouvez pas le toucher avec réticence. Comme cette femme qui se fraya un chemin au travers de la foule compacte pour le toucher, vous devez jouer des coudes pour vous frayer un passage et écarter résolument l'égoïsme, la désobéissance, les péchés non confessés, la tiédeur, la crainte du, qu'en dira-t-on, les traditions des hommes, les articles écrits contre la guérison divine, souvent l'opinion de votre propre pasteur, qui peut ne pas être éclairé sur ce point, les doutes, l'indécision, les symptômes, les sentiments et les mensonges du serpent. Le Saint-Esprit, qui doit manifester dans notre vie les bénédictions de la rédemption, est notre consolateur et notre aide. Il est prêt à nous aider à nous frayer un chemin au travers de tous ces obstacles jusqu'à l'endroit où nous pourrons toucher le Seigneur et lui présenter nos besoins. Dieu attend de déverser pleinement son Esprit Saint sur nous, car le Saint-Esprit est venu en tant qu'officier ministériel de Christ pour concrétiser dans notre vie toutes les bénédictions qui nous ont été acquises au calvaire et qui nous sont garanties par ses sept noms rédempteurs. Il est encore vrai aujourd'hui que tous ceux qui le touchent sont guéris. Comment pouvons-nous le toucher ? En croyant à sa promesse. C'est le moyen infaillible de toucher Christ pour recevoir tout ce qu'il a promis. Nous le touchons en lui présentant notre prière et en croyant qu'il entend notre prière au moment où nous prions. Quand la femme l'a touché, ce fut sa foi qui l'a guéri. Ce ne fut pas seulement le contact physique, car la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Des millions de pécheurs l'ont touché de cette manière, pour recevoir le miracle encore plus grand de la nouvelle naissance. Pas un simple contact, mais une union de même, que les malades le touchaient et étaient guéris, lorsque Jésus marchait sur cette terre, ainsi nous pouvons aujourd'hui avoir le même privilège en le touchant, et cet attouchement nous unit à Christ d'une manière plus profonde qu'auparavant. Ce n'est pas un simple contact, mais une union aussi réelle, que celle qui existe entre le serment et le cep. Tout ce qui est dans le cep, que ce, page 83. Soit sa vie spirituelle ou sa vie physique, nous appartient à nous qui sommes les serments. Le toucher ainsi par la foi peut nous placer aujourd'hui sous la pleine autorité du Saint-Esprit, qui est celui qui accomplit les miracles. Ceci ne pouvait pas être fait de la même manière pendant le ministère terrestre de Christ, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu. Le ministère de Jésus en tant que sauveur et divin médecin n'est pas moindre depuis qu'il est glorifié. Il est plus grand. Nous obtenons de plus grands privilèges en le touchant aujourd'hui que ceux qui le touchaient quand il était sur la terre, parce que nous pouvons recevoir davantage en le touchant. Parce qu'il est à la droite de Dieu, il a davantage à donner. C'est pourquoi il a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille ?» Puisque le Saint-Esprit est venu révéler Jésus d'une manière qu'il n'était pas possible d'expérimenter avant que Jésus ne soit enlevé pour nous envoyer l'Esprit, pourquoi ne pouvons-nous pas nous approcher de lui pour être guéris, avec une foi au moins aussi grande que la foi de ceux qui le pressaient à l'époque? Nous voyons donc l'importance capitale du fait d'être en règle avec Dieu avant de demander la guérison. Le fait d'être en règle avec Dieu donne une bénédiction mille fois plus désirable et profitable que la guérison proprement dite. J'ai vu des malades rayonner de bonheur, mais aussi des pécheurs, en parfaite santé, être tellement malheureux qu'ils se sont suicidés. La troisième étape, nous allons à présent entreprendre d'expliquer clairement comment recevoir la guérison et nous l'approprier. Obtenir quelque chose de Dieu ressemble à un échange sportif entre deux partenaires. Quand un joueur a joué, il n'a plus rien à faire tant que l'autre personne n'a pas joué. Chacun joue à son tour. Ainsi, Dieu nous a d'abord accordé la guérison, comme toutes ses autres bénédictions, et il nous a envoyé sa parole. Il nous faut jouer avant qu'il joue à nouveau. Notre part consiste à nous attendre à recevoir ce qu'il promet au moment où nous prions, ce qui nous poussera à mettre notre foi en action avant de pouvoir constater la guérison. Pars, page 84. Que la guérison est l'œuvre de Dieu et il ne la manifestera que quand c'est à son tour de jouer. Dieu ne joue jamais quand ce n'est pas à son tour de jouer, mais il ne manquera jamais de jouer quand c'est à lui de jouer. Quand Noé a été divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore, sa part a consisté à croire que le déluge allait se produire et à mettre sa foi en action en construisant l'arche sur la terre sèche.